France Culture.
Un journal présenté par Juliette Kietrzeszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour, bonjour à tous. À la une de ce journal, le lever de rideau du Salon de l'Agriculture. C'était ce matin en présence d'Emmanuel Macron pour l'inauguration. Face à des agriculteurs remontés, le président a notamment rencontré les principaux syndicats agricoles. On parlera également du Salon de l'Agriculture avec notre invité, Gilles Laferté, sociologue spécialiste des mondes ruraux. On s'intéressera au groupe social des agriculteurs en pleine recomposition. Dans l'actualité internationale, 7e échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens, le Hamas a libéré plusieurs personnes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Échange précédé de la confirmation de la mort de l'otage Shiri Bibas. Nous serons en direct avec notre correspondant à Jérusalem. La RDC au cœur des préoccupations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier et pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23. Les violences ont fait fuir de nombreuses personnes. 42 000 ont trouvé refuge au Burundi en à peine 2 semaines. Top départ du 61e Salon de l'Agriculture. Depuis 9h à Paris, porte de Versailles, près d'un millier d'exposants accueillent les visiteurs. Le président Emmanuel Macron était attendu au tournant par des agriculteurs toujours remontés après une visite chaotique l'an dernier. Les principaux syndicats agricoles ont été, en début de matinée, reçus avant la traditionnelle coupe de ruban et la déambulation présidentielle. Julien Nény, vous êtes sur place au Salon de l'Agriculture. L'enjeu du président, c'est de faire oublier les images de l'an passé.
Oui, l'enjeu est personnel pour Emmanuel Macron. Les images chaotiques de l'année dernière ont profondément marqué le président, mais aussi l'opinion et les agriculteurs eux-mêmes. L'un d'eux n'a pas manqué de le faire remarquer au président ce matin, entre deux vaches.
Monsieur le président, merci. Ça se passe mieux que l'an dernier, vous êtes mieux accueilli que l'an dernier.
Oui,
ben oui. Content d'être là à nouveau.
Mais je suis pour ça que je suis là. Je suis là les années difficiles, je suis là les années plus faciles. Parce que c'est comme ça qu'on mène un pays.
Cette année, un mot d'ordre donc, apaiser ou en tout cas tout faire pour laisser cette impression. Ça passe par organiser par exemple un point presse loin des allées du salon, à l'étage, dans une salle fermée pour éviter tout risque de huée éventuelle. Ça passe aussi par une visite très balisée, sécurisée, loin du grand public, repoussée en tout cas jusqu'à midi derrière des barrières. Si bien que le président a surtout croisé les exposants du salon et les syndicats.
Julien Nény sur place au Salon de l'Agriculture avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. On va rester au Salon de l'Agriculture pour s'intéresser avec notre invité aux agriculteurs d'un point de vue sociologique. Avec cette question, est-ce un groupe social en pleine recomposition ? Notre invité est monsieur Gilles Laferté, sociologue spécialiste des mondes ruraux, chef adjoint du département de sciences sociales INRAE. Bonjour monsieur.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci à vous d'avoir répondu. On va se pencher avec vous sur les résultats des dernières élections aux chambres d'agriculture. Est-ce qu'on peut parler d'un processus de recomposition du groupe social que représentent les agriculteurs ?
Oui, on peut clairement parler de recomposition sociale. En sociologie, le groupe, il a longtemps été très compliqué à analyser du point de vue de sa position dans la structure sociale, puisqu'il est très compliqué de l'analyser en termes de classe sociale, puisqu'il a à la fois des exploitants qui sont chefs d'entreprise, mais en même temps, ils s'exploitent eux-mêmes. Et donc, dans la structure sociale classique, ils sont difficilement classables. Et du coup, on avait une tendance à les mettre un petit peu à l'écart des autres groupes sociaux. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le mode de vie, beaucoup des agriculteurs se rapprochent des modes de vie du reste des autres groupes sociaux. Ils sont pas à part. L'endogamie est beaucoup moins forte. Il y a beaucoup d'entrées dans les mondes agricoles aussi, des sorties. Donc le groupe est beaucoup plus reconnecté à l'ensemble des autres groupes sociaux. Et puis par ailleurs, il est beaucoup plus diversifié, voire fragmenté d'une certaine manière.
Vous parlez de dynamique de polarisation parmi les agriculteurs, c'est ça ?
Alors, on peut parler de polarisation si on parle du point de vue idéologique. Je pense que c'est important, c'est d'avoir la vision politique au sens syndical des élections aux chambres donne très bien une tripartition qui est bien sûr encore dominée par la FNSEA. Mais on voit bien apparaître trois pôles du point de vue qui correspondent à trois projets agricoles ou trois façons de penser l'agriculture qui sont quand même assez différenciés et qui correspondent aussi à des positions économiques et sociales des groupes agricoles différenciés. Et sachant qu'il y a toute une partie qui n'ont pas voté non plus, il y a beaucoup d'abstention. Donc peut-être qu'il y a aussi une désaffection d'une partie des agriculteurs avec la construction du groupe dont les syndicats sont les porteurs.
Est-ce qu'on observe une forme de défiance vis-à-vis de la gouvernance historique de l'agriculture ?
Clairement. Alors, il ne faut pas non plus surestimer ça, parce que les colères agricoles et les révoltes agricoles ne sont tous sauf un idée historique. Hein. C'est quand même un grand classique des manières d'agir. C'est presque une répétition à chaque grand enjeu de manifestation. Mais là, à l'évidence, le modèle de la prédominance d'un syndicat dans la co-construction des politiques publiques avec des critiques sur sa droite, sur sa gauche, est une situation qui est relativement, qui est inédite depuis plusieurs décennies et qui donc produit une sorte d'indécision gouvernementale ou de difficulté à tracer une ligne d'un modèle vu que des modèles se coexistent. Et donc c'est toujours un exercice de plein équilibre. À chaque décision, il y a les contestataires de la décision au sein même du groupe agricole et bien sûr au-delà du groupe agricole, puisque l'agriculture ne concerne pas que les agriculteurs. Mais oui, il y a une polarisation neuve qui fait que c'est compliqué, du point de vue d'un gouvernement, d'orienter un groupe tout entier, un secteur tout entier. Les intérêts sont contradictoires.
Est-ce que la mobilisation du printemps dernier, en particulier telle qu'elle s'est dirigée contre l'INRAE, montre également un changement important dans le rapport des agriculteurs par rapport à la science ?
Oui, alors je pense que nous n'échappons absolument pas, nous les scientifiques, à ça, à cette défiance à l'autorité ou que serait le politique et à la science, qui aurait une sorte de construction autant que possible dégagée des intérêts privés ou politiques d'une parole la plus autonome possible. Et ça, c'est un contrat longtemps, presque républicain entre les agriculteurs et la science, dont INRAE incarne la logique, une science au service du développement de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs. Mais aujourd'hui, cette science, elle n'est pas moins au service des agriculteurs, elle est juste en train d'expliquer que certaines évolutions de l'agriculture sont à changer si on veut préserver la biodiversité, si on veut préserver ou limiter les crises climatiques, et que donc tous les défis et les risques qui sont face à l'agriculture, sanitaires, environnementaux, même spatiaux, territoriaux, on a besoin d'analyses scientifiques importantes. Et donc, je pense qu'il est important que les agriculteurs ne se mettent pas contre la science, comme c'est aujourd'hui le cas de beaucoup de groupes sociaux qui peuvent remettre en cause les paroles scientifiques,
merci,
qui sont en général désintéressés quand même. Hein.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Gilles Laferté, sociologue spécialiste des mondes ruraux, chef adjoint du département de sciences sociales INRAE. Grand merci également à Louise Guérin pour la programmation. Direction le Proche-Orient, à Gaza, avec le 7e échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens qui se poursuit. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous êtes correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Le Hamas a libéré ce matin 5 otages dans le sud de l'enclave palestinienne à Rafah, en échange donc de prisonniers palestiniens.
Oui, alors des libérations plus complexes que les semaines précédentes. Le second temps vient de s'achever. Il s'est déroulé au camp de réfugiés de Nouserat, dans le centre de la bande de Gaza. Et en tout, à ce stade, 5 Israéliens ont été libérés. 3 d'entre eux capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre. Et également Avera Mengistu, un juif éthiopien qui a passé plus de 10 ans en captivité. On attend maintenant la libération de Hicham al-Sayed, un bédouin âgé de 36 ans, qui souffre de troubles psychiques, tout comme Mengistu, et qui a également passé plus de 10 ans à Gaza, après avoir traversé la frontière de son plein gré. En Cisjordanie, 602 détenus de sécurité palestiniens doivent être eux aussi libérés dans le cadre de ce 7e échange. Mais pour en venir donc aux libérations des otages, on a pu voir que le décor était le même, avec la mise en scène désormais habituelle. Les visages des otages étaient émaciés, ils arboraient des certificats de libération et des sachets avec des souvenirs offerts par le Hamas. Certains d'entre eux sont contraints de remercier leurs gardiens. Un podium a été érigé avec des portraits des dirigeants du Hamas, notamment Mohamed Def, le chef d'état-major éliminé par Israël. Et il y avait des messages aussi, par exemple une citation de Benjamin Netanyahou: « Seule la pression militaire ramènera les otages, mais, ajoute le Hamas, ne mets pas trop de pression, Bibi. »
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Toujours dans ce contexte, la famille de l'otage israélienne Shiri Bibas a confirmé sa mort ce samedi après la restitution de sa dépouille par le Hamas, mettant fin à la confusion sur son sort juste avant donc ce 7e échange d'otages israéliens contre des centaines de détenus palestiniens. La situation en République démocratique du Congo est au centre de l'attention de l'ONU. Le Conseil de sécurité a condamné hier et pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23 qui continue son avancée dans l'est de la RDC face à une armée congolaise en déroute. La résolution adoptée à l'unanimité condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au nord Kivu et au sud Kivu avec le soutien des forces de défense rwandaises dont 4000 soldats appuient le M23. Sur place, les violences en République démocratique du Congo ont poussé quelques 42 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, à trouver refuge au Burundi en à peine 2 semaines, bien loin des estimations des autorités qui s'attendaient à un peu moins de 60 000 réfugiés en 3 mois, Nathanaël Charbonnier.
C'est inédit depuis 25 ans. Le commentaire est signé du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Cet afflux de réfugiés congolais est évidemment lié à l'avancée du groupe armé antigouvernemental M23 et de ses alliés rwandais dans l'est de la RDC. Des dizaines de milliers de réfugiés et ce n'est pas terminé. Les autorités s'attendent à d'autres arrivées à mesure que la guerre s'approche de la ville d'Uvira, près du principal point de passage officiel de la frontière. Et cela sans compter sur ceux qui sont déjà partis se réfugier en Ouganda. Mais le vent de panique qui touche la population congolaise est à mettre aussi sur le compte des atrocités commises depuis ces dernières semaines avec les prises des 2 principales villes de la région du lac Kivu, à savoir Goma et Bukavu. Le défi maintenant est de répondre à la demande de ces réfugiés. Il s'agit à la fois de les protéger mais aussi de leur fournir nourriture, médicaments ou encore confort minimum avec un accès à des latrines pour prévenir toute épidémie. Pour cela, de nouveaux camps vont devoir être créés. Il s'agit d'apporter secours également aux enfants qui arrivent parfois seuls. Pour l'ensemble des réfugiés, le HCR aurait besoin de plus de 40 millions de dollars.
Les précisions de Nathanaël Charbonnier. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est incarcéré depuis mi-novembre en Algérie. Cette semaine, son avocat, Françoise Imré, a exprimé ses inquiétudes sur l'état de santé de l'écrivain. Boualem Sansal souffre d'un cancer. Derrière son incarcération, selon le journal Le Monde, le pouvoir algérien aurait mal pris ses déclarations aux médias français Frontières, réputé d'extrême droite, où il a repris la position du Maroc selon laquelle le territoire de ce dernier aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. Boualem Sansal est poursuivi en vertu du code pénal algérien qui sanctionne, je cite, comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. De nombreux intellectuels et écrivains, notamment en France, protestent face à cette incarcération de Boualem Sansal. Ils estiment les poursuites sans aucun fondement. Mais qu'en pense la rue algérienne? Elle semble plus réservée sur la question. Correspondance à Alger de Nina Mir.
Rencontré à Alger, l'ancien haut fonctionnaire et militant politique Moulay Idriss Chentouf a bien connu Boualem Sansal. Comme de nombreux Algériens, il est surpris des nouvelles positions politiques de l'homme de lettres.
C'est anormal qu'il soit arrêté. Mais néanmoins, le parcours de Boualem Sansal est problématique pour moi. Je n'arrive pas à comprendre ces déclarations, qu'aujourd'hui Boualem Sansal se retrouve à être défendu par une revue comme Frontières, par une des chaînes de télévision comme CNews, etc. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là.
Nadia, étudiante à Polytechnique, habite à Mascara, dans l'ouest de l'Algérie.
En tant que jeune, j'ai pas un avis bien précis sur la situation, mais je crois que d'un côté, il faut faire confiance au gouvernement par rapport aux décisions qu'ils prennent pour garder la sécurité du pays. Mais aussi, il faut laisser un peu de liberté pour les nouveaux jeunes, les nouveaux auteurs, pour qu'ils expriment leur avis d'une façon plus libre, plus transparente.
Boualem Sansal ne jouit pas d'une grande popularité auprès de la rue algérienne, les sujets d'intérêt des Algériens étant en premier lieu portés sur le conflit à Gaza et l'accueil du Ramadan.
La correspondance à Alger de Nina Mir. La guerre en Ukraine, toujours au centre de l'attention américaine. Les États-Unis ont proposé à l'ONU, je cite, une résolution pour une fin rapide du conflit et appellent à une paix durable entre l'Ukraine et la Russie. Le projet de résolution ne comporte que 65 mots, précise l'AFP, et ne mentionne pas le respect de l'intégrité territoriale du pays. Et puis des nouvelles du pape François, hospitalisé depuis 8 jours pour une pneumonie. Le Vatican a publié ce samedi un communiqué rassurant, mais précise que le pape ne récitera pas en public la prière devant les fidèles à Rome pour la 2e semaine consécutive demain. La météo de cet après-midi, nuageux voire même pluvieux sur la moitié nord, un ciel un peu plus dégagé sur la côte atlantique, les températures 10 à Lille, 11 à Paris, Cherbourg, Brest, 12 à Bordeaux, 13 à Marseille, 18 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Jean-Guilain Meige.